Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur France Bleu comme chaque jour. C'est votre émission avec un thème qu'on choisit pour vous. Vous venez en parler et aujourd'hui on va parler du handicap et de la famille quand son enfant est porteur d'un handicap et quel que soit d'ailleurs le handicap. Aujourd'hui ce sont 15 000 enfants qui naissent avec un handicap en France. Ça représente 2% des naissances. Mais il y a aussi tous les enfants qui se retrouvent handicapés après un accident, une maladie. On va parler aujourd'hui du quotidien qui s'en retrouve chamboulé. L'annonce du handicap, la réaction après coup, les réaction des autres, le parcours médical, l'aide à domicile, la scolarisation de votre enfant, la demande d'un assistant de vie scolaire par exemple, et ça on le sait, c'est un gros dossier, les questions de votre enfant, comment vous gérez tout ça? Eh bien on se dit tout, vous donne la parole au 0810 055 056, en compagnie aujourd'hui de notre grand témoin Sophie Dansigier, déléguée générale de la Fondation Groupama. Bonjour Sophie, bienvenue.
Bonjour Vanessa, merci.
La Fondation Groupama qui aide une quarantaine d'associations, qui finance des projet. Le but, c'est de faire bouger les lignes un petit peu, parce que c'est long, hein, on le voit.
Oui, c'est long. La Fondation, elle est vraiment, elle, centrée sur les maladies rares, mais le handicap est souvent issu de maladies rares. On aide plus de 120 associations et effectivement, on essaye de trouver des moyens de changer la donne pour le quotidien des malades.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Que disent les parents, généralement? Qu'est-ce qui est le plus dur pour eux quand ils se retrouvent avec un enfant handicapé?
Bon, je crois que l'une des choses les plus dures, c'est très certainement tout ce qui relève de l'administratif. En plus, les maladies rares, il faut savoir que ça ne rentre pas dans les cases. Le regard de l'autre aussi, je pense, est difficile. Et puis, il y a aussi, enfin, tout est difficile finalement, parce qu'il y a aussi l'économique. Parfois, un parent est obligé de moins travailler, voire de ne plus travailler. Et ça met en situation périlleuse l'équilibre financier de la famille.
Parents, grands-parents, frères et sœurs, venez prendre la parole. On parle du quotidien qui se retrouve chamboulé quand on a un enfant porteur de handicap. C'est le sujet d'On se dit tout et c'est parti sur France Bleu.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
À quoi ressemble une journée type quand on a un enfant porteur de handicap? Est-ce qu'elle ressemble à n'importe quelle journée de n'importe quelle famille ou est-ce que chez vous le quotidien est un petit peu plus rock'n'roll? Et qu'est-ce qui est plus compliqué d'ailleurs? Venez nous raconter votre histoire, votre quotidien avec votre enfant, avec votre famille de façon plus large, avec les institutions, je pense notamment à l'école, les rendez-vous médicaux, les questions qu'on se pose alors qu'on se les posait pas forcément avant, les prises de tête pour avoir des réponses aussi et certaines aides. Je sais, ça fait beaucoup de questions à la fois, mais on a du temps pour en parler, donc venez nous rejoindre sur France Bleu au 0810 055 056. Enfants handicapés, quotidien chamboulé, c'est le sujet d'On se dit tout avec aujourd'hui notre grand témoin Sophie Dansigier, déléguée générale de la Fondation Groupama. Là on se dit, on est début novembre, donc la rentrée est derrière nous, normalement ça devrait bien se passer, sauf que quand on a un enfant porteur de handicap, c'est pas si simple que ça, la rentrée des classes et l'école en général.
Non, c'est rarement simple, effectivement. Alors, j'avais trouvé un chiffre qui disait qu'en 2008, c'était il y a 10 ans certes, mais enfin, je suis pas sûre que c'est beaucoup changé, il y avait encore 13 000 enfants qui s'étaient retrouvés sans aucune solution de scolarité. Voilà, ça prouve que le milieu ordinaire, la scolarité ordinaire n'est pas toujours adaptée pour recevoir les enfants et qu'il y a encore un manque d'instituts spécialisés pouvant les accueillir. Mais je crois que quand on a un enfant handicapé, en fait, le temps n'est pas le même que quand on a des enfants qui rentrent dans des parcours beaucoup plus ordinaires. Il faut énormément anticiper. La rentrée, elle se prépare un an à l'avance. C'est pas fin août qu'on prépare le cartable quand on a un enfant handicapé. Et puis, il faut aussi devenir un pro de la communication. Parce qu'il faut, même quand on a obtenu l'AVS, savoir échanger avec les enseignants, l'enseignant référent, mais aussi le maître des écoles de l'enfant ou les enseignants, avec les médecins pour qu'ils soient informés du parcours scolaire. Il faut savoir, comme ça, donner des informations sur la maladie, surtout sur ses conséquences sur l'enfant, son comportement, sur les petits trucs qui vont permettre au maître de mieux comprendre.
Parfois, c'est pas grand chose. Vous montriez tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, ce que vous faites avec la Fondation Groupama. Des petits livres à destination des maîtres, des professeurs, des livres tout simples mais qui permettent de changer radicalement le quotidien d'un enfant handicapé à l'école.
Oui, vous faites référence à un petit livret pour les enfants atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth où effectivement, de par leur maladie, ils ont des pertes d'équilibre, ils ont une grande fatigabilité et on les traite souvent de feignants parce qu'ils s'essoufflent et puis de maladroits. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait que c'est lié à la maladie et qu'il n'y a rien de volontaire derrière, ça change le regard des camarades, du professeur, et tout à coup l'enfant est enfin complètement inclus dans cette école très classique.
Je pense qu'on va parler beaucoup d'inclusion dans cette émission, c'est un peu le mot qu'on emploie de plus en plus pour parler justement de ces enfants qui ont besoin d'aller à l'école aussi. C'est tellement important pour travailler sur la maladie, sur le handicap, sur le regard aussi des autres. On en parle avec vous et on vous attend. Surtout, vous savez que cette émission, sans vous, elle n'existe pas. 0810 055 056, votre enfant est porteur de handicap. Comment ça se passe au quotidien, dans la famille, mais aussi avec les frères et sœurs, à la maison, avec le milieu médical? C'est à vous de nous le dire. On vous attend sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Enfants handicapés, quotidien chamboulé, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui avec vos témoignages au 0810 055 056, témoignages de parents, de grands-parents, de frères, de sœurs. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dès l'instant où le handicap s'est invité dans votre famille? Comment vous avez accepté la nouvelle? Par quelles étapes et par quels sentiments aussi êtes-vous passé? Et puis qu'est-ce que vous trouvez compliqué aujourd'hui encore? L'inclusion à l'école, dans le monde du travail, le regard des autres? On vous attend pour apporter votre témoignage en compagnie aujourd'hui de Sophie Dansigier, déléguée générale de la Fondation Groupama, et avec Isabelle qui est avec nous depuis les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous avez une grande fille, elle a 21 ans aujourd'hui.
Elle a 21 ans, oui, tout à fait.
Qui est handicapée. Quel type de handicap elle a?
Alors ça va être tout ce qui est cognitif, tout ce qui est cerveau. Dans le cerveau, c'est plutôt un handicap donc de ce côté-là. Voilà. Ça a été décelé donc très récemment. Voilà. Donc ça nous est tombé un petit peu dessus du jour au lendemain, à vrai dire. On ne s'y attendait pas du tout. Hein,
bah oui, et qu'est-ce qui est le plus compliqué alors aujourd'hui dans votre quotidien
alors,
avec elle?
Le plus compliqué, c'est surtout à trouver, on va dire, des transports qui puissent l'amener de chez elle à ses lieux de soins. Donc des VSL, personne ne veut faire des petits déplacements, parce que pour compliquer un petit peu la chose, donc ma fille elle habite à 300 km de chez nous, hein, pour faire tous ses soins. Heureusement qu'elle est donc dans ce département, parce que bah hélas, voilà, chez nous dans le 04, les structures n'étaient pas en capacité de pouvoir de diagnostiquer ce qu'elle avait. Hein. Donc du coup elle est partie dans son département d'étudiants, dans le 34. Et là, pour trouver des VSL, c'est très compliqué. Donc, à l'heure actuelle, elle est chez elle, sans soins, et pas pouvoir avoir de transport pour pouvoir la mener.
C'est qui votre interlocuteur principal aujourd'hui? Quand on se retrouve face au handicap, on est papa, maman, on se dit vers qui on se tourne? Est-ce que déjà le médecin traitant a des informations? Est-ce qu'il y a des associations avec vous?
C'est très compliqué. J'essaie de taper à toutes les portes. Il y a bien évidemment un dossier MDPH. Ils ont été là, ils ont été très très réactifs. Donc ça, je tenais à les remercier en tout cas. Malgré eux, ils sont un petit peu impuissants, je veux dire. J'ai appelé la sécurité sociale parce que il y a des prises en charge VSL, mais personne, tout le monde est complet. Donc j'ai dit à ce moment-là, je me retourne vers qui? Vers la sécurité sociale. Et la sécu m'a dit, on peut pas imposer à un transporteur de prendre une personne. Je tape à la porte des assurances sociales, je tape à la porte de la mairie, je tape à la porte de son médecin traitant, je tape à la porte des neurologues, des centres neurologiques, et j'ai pas de retour et j'ai pas de réponse. Voilà ce qui est le plus compliqué à l'heure actuelle.
C'est ce qu'on disait en début d'émission, Sophie, c'est aussi il faut être patient, il faut être pugnace, il faut y aller, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les portes se ferment, il faut aller en enfoncer d'autres à chaque fois. J'ai l'impression que c'est le quotidien des parents d'enfants avec handicap.
Ah oui, c'est un quotidien de combat. Et c'est aussi un combat très solitaire. C'est d'ailleurs ce que j'entends, madame, à travers votre propos. Solitaire, vous êtes un peu seule à aller frapper, votre fille aussi. Et effectivement, alors, je ne sais pas s'il existe une association par rapport à la maladie de votre fille qui, elle, peut-être aussi vous apporter une aide.
Je vais me renseigner parce que c'est une maladie qui est très très rare en plus, donc voilà, ils sont très très peu. C'est une des seules qui est en France, ma fille en plus à avoir eu ça, donc c'est encore d'où plus compliqué. Voilà.
C'est votre credo, vous, vraiment, à la Fondation Groupama, oui. Les maladies rares.
Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, je vous promets pas qu'il y aura une réponse, mais c'est d'aller sur le site Orphanet, O-R-P-H-A-N-E-T, qui est un site créé par l'INSERM, qui est le référentiel des maladies rares en Europe. Et en tapant la maladie de votre fille, vous verrez qu'il y a aussi toutes les ressources, et notamment les associations. Ça vous permettra peut-être de trouver l'association en France, s'il y en a une. Et à ce moment-là, peut-être, en tout cas, une écoute et un soutien moral, à minima.
C'est vrai qu'aujourd'hui, Isabelle le disait, sa fille est une des rares à avoir cette maladie-là. Et souvent, on entend, bah oui, mais c'est une maladie rare, on peut pas faire des généralités, on peut pas prendre en charge. C'est compliqué pour des parents de s'entendre dire, finalement, la maladie de votre fils ou de votre fille, bah, on la connaît pas très bien, désolé, en quelque sorte.
Oui, ça aussi, malheureusement, c'est souvent le quotidien. Moi, je voudrais quand même juste rappeler que, certes, les maladies rares sont rares, mais c'est 3 millions de personnes au total. Donc, c'est pas si rare que ça, au global. C'est quand même un pourcentage non négligeable de la population et qu'on peut pas laisser 3 millions de Français sur le bord de la route.
Isabelle, merci de nous avoir appelés. J'espère que vous trouverez une solution, hein, une aide, en tout cas une écoute et peut-être une association aussi qui pourra vous aider. Et nous, on continue de parler du handicap, les enfants et le handicap et tout le quotidien qui s'en retrouve chamboulé.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Le handicap de votre enfant a considérablement changé votre vie et on en parle aujourd'hui sur France Bleu dans On se dit tout. Aménagement du temps de travail pour vous ou votre conjoint ou les deux. Bataille avec les instances de l'éducation nationale pour que votre enfant puisse aller à l'école comme tout le monde. Enchaînement incessant de rendez-vous médicaux, sociaux. Qui vous aide? Qui vous a aidé? On parle du quotidien avec vos témoignages de parents, de frères, de sœurs. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Sophie Dansigier, déléguée générale de la Fondation Groupama, qui est notre grand témoin, la fondation qui aide une quarantaine d'associations qui financent des projets pour faire bouger les lignes et puis surtout pour faciliter le quotidien de parents avec des enfants porteurs de handicap et notamment les maladies rares. C'est vraiment votre credo. Nous sommes maintenant en Loire-Atlantique avec Souria. Bonjour Souria.
Bonjour.
Voici maman d'un grand garçon puisqu'il a 44 ans, handicapé mental, aveugle depuis l'âge de 2 ans. Il est en institut aujourd'hui mais jusqu'à l'âge de 20 ans, il était avec vous et vous vouliez parler du quotidien, de la famille tout entière qui se retrouve bouleversée.
Voilà, je veux dire qu'on a un enfant handicapé, d'abord les frères et sœurs qui sont venus après, ils comprennent pas. Donc ils se disent pourquoi moi je me soigne et je guéris, pourquoi pas mon frère.
Donc, le temps qu'on consacre aussi peut-être à cet enfant plus qu'aux autres à un certain moment.
Il y a ça aussi. Et on est un peu plus rigide avec tout le monde. Parce qu'on veut que l'enfant handicapé avance bien, bah, qu'il soit autonome et tout ça, on essaye tout au moins. Et donc on est rigide avec les autres même s'ils sont plus petits.
Et vous en ont parlé parfois vos enfants avec un peu de recul aujourd'hui?
Oui, mais ils m'ont parlé, mais ils sont très contents de ce qu'ils ont vécu parce que je me suis dirigée vers une association, ADAPI, pour qu'ils puissent voir qu'il n'y a pas que leur frère qui est comme ça. Il y a d'autres enfants, d'autres personnes, et ça les a beaucoup aidés.
C'est important, Sophie, je vous vois là hocher de la tête, genre c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire à un moment donné. C'est vrai que quand on a un enfant handicapé, s'il y a d'autres enfants, tout le monde est impacté dans la famille.
Oui, tout le monde est impacté, ça devient difficile, tout ce qui est loisir se conjugue souvent au conditionnel. Et c'est très bien, madame, ce que vous avez fait. Je sais que les associations maladies rares organisent souvent des week-ends des familles, qui sont aussi un moyen, entre autres, hein, ils font d'autres choses, mais qui sont un moyen pour les enfants, les enfants malades et les autres, de se rencontrer et donc de s'apercevoir effectivement qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Et c'est bien. Et puis je pense qu'expliquer la maladie de l'enfant, c'est aussi une bonne chose. Et certaines associations font des livrets là-dessus pour expliquer aux frères et sœurs la maladie.
C'est les premiers, ambassadeurs aussi d'une certaine tolérance, les frères et sœurs.
Oui, c'est les premiers, effectivement. Et puis, c'est avec eux que l'enfant va interagir le plus. Donc, c'est aussi eux qui vont l'aider à se socialiser. Et puis, eux vont apprendre beaucoup plus vite que les autres l'ouverture.
Alors, aujourd'hui, Souria, vous dites que votre fils est dans un institut. Est-ce que tout se passe bien pour lui? Est-ce que vous êtes rassurée aujourd'hui?
Ah oui, très. Moi, oui. J'avoue que j'étais beaucoup accompagnée par des gens formidables, des gens qui m'ont aidée autant moralement que... pour la garde d'Armel ou des trucs comme ça. Je vois Armel, il participe à beaucoup de choses. Moi, je l'ai toujours fait participer à tout. Donc, par exemple, piscine avec son frère et sa soeur, restaurant, vacances. Enfin, je l'ai amené partout. Le truc le plus important, c'est effacer le regard des autres. Qu'on arrive à faire ça, on vit très bien.
C'est vrai que la science avance, la recherche avance, les institutions commencent à s'ouvrir un petit peu, mais il y a toujours ce regard des autres. Donc plus on parlera du handicap, plus on fera entrer les handicapés partout finalement, plus ça deviendra évident. Je sais pas, on pourrait peut-être y arriver à un moment donné.
Ben peut-être qu'un jour on normalisera tout ça et que finalement ce sera des gens comme les autres.
Comme les autres. C'est vrai qu'à l'école, on le voit bien, il suffit d'expliquer la maladie, la maîtresse qui vient en parler, l'enfant lui-même qui explique à ses camarades, ça change tout. C'est-à-dire qu'on passe de la peur, de l'incompréhension, de l'inconnu à quelque chose qui, ah ok, d'accord, on sait maintenant.
Ah oui, ça c'est vrai que la connaissance et la compréhension aident vraiment à l'inclusion et au fait de dédramatiser finalement la situation et de la rendre simple.
Banale. Presque banal, banal.
Absolument.
Même si banal. Le quotidien, lui, ne l'est pas toujours. Merci beaucoup, Souria, d'avoir été avec nous sur France Bleu. On vous embrasse et on continue d'écouter vos témoignages au 0810 055 056. Enfants handicapés, quotidien chamboulé. Alors, le quotidien, c'est de façon très, très large. Vous pouvez nous parler de l'école, vous pouvez nous parler des frères et sœurs, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. C'est vous qui avez la parole.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Votre enfant est porteur de handicap et parfois, oui, on peut le dire, c'est compliqué. Compliqué pour vous qui êtes plus sollicité, compliqué pour votre couple aussi, pour les frères et sœurs qui se sentent un peu à l'écart. Compliqué pour l'organisation en général, finalement. Racontez-nous quand ça a été, selon vous, le plus compliqué. Ce qui vous a agacé même, peut-être, à un moment donné. Comment vous avez fait pour gérer tout ça comme des chefs et avec toutes ces émotions parfois contradictoires. École, parcours de santé, famille, on se dit tout au 0810 055 056 avec Sophie Dansigier de la Fondation Groupama qui est notre grand témoin. Et nous sommes maintenant avec Agnès en Lorraine. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour Véronique.
Vous êtes maman d'un petit garçon qui a 9 ans aujourd'hui, qui a la myopathie du chêne.
Tout à fait. Ça fait 3 ans qu'il a été décelé. Mmh. Au début, quand on nous annonce ça, on va dire tout le temps, entre guillemets, on ne sait pas quoi faire. Et vous avez une grosse association française qui aide les myopathes,
qui nous encadre. L'AFM, oui, l'AFM Téléthon.
Voilà, l'AFM, voilà. Donc, je suis devenue bénévole moi-même à la coordination de Metz, parce que j'avais besoin de donner aux autres, que mon petit garçon m'apporte, j'avais besoin de donner aux autres enfants de la Moselle. Et grâce à l'AFM, on a pu monter rapidement le dossier MDPH, voir le futur de notre enfant et imaginer ce qui allait se passer. Et également grâce donc à la MDPH, il a pu être pris en charge par le CESTAD de Metz.
Alors la MDPH, j'explique, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Je l'explique pour ceux qui sont vraiment pas du tout dans le milieu, en disant de qu'est-ce qu'elle parle Agnès. Et qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui? On voit que l'AFM vous a aidé, vous a informé, vous a orienté. Malgré tout, ça reste compliqué parfois, Agnès.
Oui, ça reste compliqué parce que on est laissé seul à soi-même, gérer l'handicap de la famille, comme vous disiez, des enfants, des grands-parents, qui ont du mal à accepter la maladie de leur petit-fils ou de leur frère. Et c'est vrai que ça, c'est difficile. Et le visuel de l'enfant, parce que moi, mon petit garçon, il a 9 ans et demi, il vit la moitié de son temps en fauteuil roulant. Donc c'est l'handicap physique en fauteuil roulant. Les gens sont tristes pour lui, mais en fin de compte, je leur dis, écoutez, comme vous, il vit normalement, il connaît sa maladie, il sait ce qu'il va avoir, parce qu'on lui parle, on lui explique. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travaux pour qu'il puisse rester avec nous. On a aménagé une plateforme élévatrice, une chambre avec les rails, une salle de bain spécialement pour lui avec WC. On avait la possibilité de le faire et grâce à au dossier MDPH que nous avons déposé, on a eu des aides aussi par l'ANA aussi, l'amélioration à l'habitat pour conserver son enfant à domicile. Et puis tous les entrepreneurs qui ont pu nous aider en 6 mois de temps à faire tous les travaux, c'était vraiment super magique. Mais ce qui est difficile aussi, c'est la gestion de son temps de travail, parce que moi je travaille et je n'ai pas d'horaire aménagé pour mon petit garçon. Ouais. Quand il sort de l'école, eh ben, je peux pas le récupérer. Je suis toujours obligée d'avoir une tierce personne.
Alors là, on a vu qu'il y a deux choses dans votre témoignage, Agnès. On voit aussi que quand on est bien informé, il y a beaucoup d'aides possibles. Et il ne faut pas avoir peur de tirer la sonnette d'alarme à un moment donné, de dire « j'ai besoin d'aide ». Quel est le protocole? Finalement, c'est presque un protocole, un parcours à suivre quand on a un enfant handicapé.
Oui, oui, il faut effectivement aller chercher les aides. Je crois que la MDPH, c'est vraiment la porte d'entrée. Et la difficulté dans le dossier MDPH, mais vous l'avez très certainement bien fait, madame, c'est de remplir la partie qui s'appelle « parcours de vie ». Parce que c'est ce qui va permettre à la commission de la MDPH de comprendre les conséquences de la maladie sur le quotidien et donc d'allouer les aides, les allocations qui correspondront finalement à ce qu'il faudra mettre en place à côté. Sachant quand même que le reste à charge, entre guillemets, pour les familles est quand même important, quoi qu'il en soit. Mais il faut effectivement demander un maximum d'aide. Et là, les associations et les assistantes sociales sont de très bons cours pour aider. Necker a créé avec la fondation un petit tutoriel justement pour remplir ce parcours de vie, expliquant un peu tout. Vous pouvez le charger sur le site de Necker, vous pouvez le charger sur le site de la fondation et vous pouvez le diffuser, il est gratuit.
Merci beaucoup Agnès de nous avoir appelé. Vous parliez de l'AFM, je rappelle que le Téléthon c'est au mois de décembre, que France Bleu et tout Radio France est partenaire du Téléthon et qu'on aura l'occasion évidemment d'en reparler.
Des moments de vie uniques. Des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
On ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est ce que disent souvent les parents d'enfants en situation de handicap. Alors justement, racontez-nous comment vous le vivez, comment vous le vivez au quotidien, ce qui vous paraît encore très compliqué, même en 2018, ce qui a changé peut-être aussi et évolué dans la prise en charge. Et puis surtout, on va parler de la prise de conscience de la société aujourd'hui. 0810 055 056, on vous attend avec Sophie Dansigier, déléguée générale de la Fondation Groupama, elle est notre grand témoin. Et Laura est avec nous depuis l'Auvergne. Bonjour Laura.
Bonjour. Alors moi je suis la sœur d'une enfant trisomique, donc ma sœur qui est plus âgée que moi, donc j'ai vécu ça en étant plus jeune. Donc j'ai vu ma sœur, donc ça s'est tout le temps très bien passé, elle est passée en école primaire normale. Après à partir du CP, elle a été dans une classe spéciale où elle allait dans des cours comme le français, l'histoire, les maths avec les enfants disons normaux. Et donc le collège, elle a inauguré les UPI, tout en très bien passé. Et après, par contre, elle a été dans des écoles spécialisées, donc après le collège, où ça s'est mal passé, parce que disons que ces écoles sont plus... Il y a plus d'enfants, disons, en difficulté sociale que de personnes trisomiques ou handicapées. Et ça s'est très mal passé parce que c'est une personne qui se défend pas, disons, qui est très gentille de tout. Et elle subissait la vengeance des autres personnes qui avaient des problèmes. Mais disons qu'elle était souffre-douleur.
Ouais, le donc, mélange était pas très bien pensé, là.
Voilà. C'était pas comme. Elle était la seule trisomique dans une école comme ça.
En tout cas, son parcours scolaire a été quand même génial, parce que c'est pas toujours le cas, on peut le dire, Laura.
Ah, bah, j'ai la grande chance, on a la grande chance avec mes parents, d'avoir ma sœur qui sait lire, qui sait écrire, qui sait calculer. Elle sait addition, soustraction, multiplication, division, elle n'y est pas arrivée. Disons qu'à l'école, j'étais à l'école, je suis plus jeune qu'elle, j'ai 5 ans de moins qu'elle. Elle était meilleure que moi en orthographe,
vous voyez. Et ça, je pense que ça va faire énormément de bien à beaucoup de parents qui vous écoutent, qui ont peut-être des petits-enfants, qui sont petits, se posent la question de la scolarisation quand on est porteur d'un handicap, et notamment sur la trisomie 21. C'est important, un témoignage comme celui de Laura, Sophie.
Ah oui, je trouve qu'il est très porteur d'espoir, parce que effectivement, il faut pas... Enfin, inclure les enfants, c'est quelque chose qui est primordial, parce que Laura aujourd'hui, enfin votre sœur Laura, elle a aujourd'hui la possibilité de vous apporter quelque chose au niveau de l'exploitation, et ça c'est quand même
pour elle avec nous maintenant. Ouais.
Pour elle comme pour vous, je trouve que c'est assez génial, quoi. Ne pas sortir de la société les personnes qui ont un handicap. Elles peuvent avoir un apprentissage plus long, mais ça ne les empêche pas bien souvent d'apprendre quand même.
Donc c'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle est revenue à la maison avec vous, Laura, c'est ça?
Oui, on est agriculteur. Donc moi, je travaille à l'extérieur, mes parents sont agriculteurs. Et donc moi, le soir, j'aide mes parents. Et elle a des choses à faire. Par exemple, les soirs, elle sait qu'il faut qu'elle remplisse des seaux pour donner à manger aux animaux le lendemain. Elle a une feuille, elle sait tous les seaux qu'elle doit faire. Et on n'a plus à lui dire, elle le fait avec plaisir parce qu'elle sait que c'est pour nous aider. Il y a des choses qu'elle peut pas faire, comme conduire un tracteur ou quelque chose comme ça, elle ne peut pas. Mais le maximum qu'elle peut nous aider, et depuis qu'elle est sortie de ses écoles spécialisée, elle est bien plus heureuse.
Elle a 30 ans, votre sœur, aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que le regard de la société a un peu changé sur les personnes handicapées ou est-ce que c'est encore compliqué?
Bah, je sais que donc, nous, on est vraiment dans la campagne. Je sais que toutes les personnes qui l'ont connue depuis toute petite, parce qu'elle a été en école primaire normale, c'est ce que je dis, et ils la considèrent comme une personne tout à fait normale. Et peut-être qu'on fait moins attention au regard des gens. Je sais que moi, étant petite, j'en ai beaucoup souffert parce que j'avais l'impression que tout le monde se moquait d'elle, que tout le monde la regardait bizarrement. Moi, je trouve que les gens font moins attention à une personne... Enfin, moi, je suis le cas d'une personne trisomique. Mais je trouve que les gens font moins attention, ou je fais peut-être moins attention au regard des gens aussi dessus. Mais je sais que ma sœur n'a jamais aucun problème. Bon, ma sœur est très bien. Et on nous avait dit que ça existait, la demi-trisomie. Normalement, ils ont un chromosome en plus. On nous a dit que ça peut exister, qu'ils aient un demi-chromosome en plus. Parce que moi, à part vraiment le physique, où bien sûr, ça se voit, et un petit peu, par contre, elle va ouvrir une conversation normale, elle va pouvoir parler de tout. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de ce côté. Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens... on ressent moins...
Il y a eu quand même aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits, que ce soit dans la publicité, dans la mode, dans la façon aussi d'en parler, de médiatiser sur la trisomie 21. En tout cas, il y a eu énormément de choses de faites ces dernières années. Laura, merci beaucoup d'avoir été avec nous et un gros bisou à votre grande sœur, alors au passage.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Enfants handicapés quotidiens chamboulés, c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui avec notre grand témoin, Sophie Dansigier, déléguée générale de la Fondation Groupama, et Janine qui est avec nous depuis la Bourgogne. Bonjour à vous Janine.
Bonjour Vanessa.
Bon, on va parler de votre petit-fils qui est en fauteuil roulant. Il a quel âge?
Il va avoir 20 ans la fin de l'année.
Et alors vous, jusqu'ici, jusqu'à sa scolarité, ça a été un parcours classique, on va le dire comme ça?
Non, il a commencé à aller à l'école normale, disons, avec sa sœur, parce qu'il a une jumelle. Et jusqu'au moment où on a supprimé les assistantes de vie. Donc, il n'y avait plus personne pour l'accompagner. Il avait un petit jeune homme avec qui ça marchait bien, il s'entendait bien.
Comment ça se fait qu'elles ont été supprimées, ces assistantes de vie scolaire?
Justement, je veux pas faire de la politique, mais vous savez, Ségolène, avec Sarkozy, elle avait piqué sa colère à la télé, personne n'a rien compris, ça lui a desservi. Mais en fait, c'était pour ça. C'était pour la suppression des assistantes de vie. Parce qu'on a voulu remplacer ces jeunes hommes qui étaient, ces jeunes hommes ou ces jeunes filles, qui étaient en contrat, je sais pas trop, là,
Ah oui, il y avait effectivement, il y avait, oui, sur la forme des contrats, en l'occurrence.
Voilà,
ouais, ouais.
En fait, disant qu'on allait mettre des personnes plus formées, enfin tout ça, puis rien eu, quoi.
L'assistance, les assistantes de vie scolaire, c'est la base pour un enfant handicapé, pour pouvoir avoir un parcours scolaire classique, on va le dire comme ça, Sophie?
Oui, il y a à peu près 170-180 000 enfants qui ont besoin effectivement d'une AVS ou d'une AESH, puisque certains dépendent de la MDPH, d'autres de l'éducation nationale, mais effectivement d'un accompagnement.
Mais c'est compliqué.
Il y a 110 000 à peu près aujourd'hui accompagnants, donc oui, c'est compliqué d'en avoir. Un accompagnant va suivre plusieurs enfants, et puis parfois à l'école, dans une classe, le maître, la maîtresse, le professeur va refuser de recevoir l'enfant avec l'AVS parce qu'il y en a déjà deux ou trois et que ça perturbe la classe.
Aujourd'hui, votre petit-fils, il en est où dans son parcours scolaire, Janine?
Eh bien, on a eu la chance de trouver une école spécialisée où il y avait 8 ou 9 petits-enfants qui étaient dans le même cas que lui. Mais après, un petit peu plus haut, là, il y avait une comment ils appellent ça? Moi, j'appelle ça des... Mais ça a changé de nom. Les centres... vous savez, quand ils sont un peu plus grands.
Oui, mais dites-le comme vous le dites, vous, hein, Janine.
Bah oui, mais je trouve le nom. Je m'excuse, je perds un peu la mémoire.
Un ESAT? Non.
Oui, un genre comme ça. Voilà.
D'accord.
Là, il est là jusqu'à 20 ans, justement. Donc maintenant, on cherche une structure pour l'encadrer.
Pour après.
Voilà, pour après.
C'est vrai qu'on a l'impression, Sophie Dansigier, qu'à chaque étape, finalement, petite enfance, le collège, l'après, la scolarisation d'une part, et puis ensuite le monde du travail, à chaque fois, finalement, les parents sont obligés de se battre à chaque étape de la vie de l'enfant.
Oui, chaque transition en fait est un nouveau combat. Et c'est pour ça que moi, je conseille vraiment quand même qu'on se rapproche à chaque fois des assistantes sociales, notamment les assistantes sociales, alors pour les maladies rares, des centres de référence, parce que c'est vraiment elles qui seront les plus à même d'accompagner les familles dans les démarches en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis les associations aussi, qui sont très bien structurées.
Merci beaucoup, Janine, d'avoir été avec nous. Merci aussi à notre grand témoin, Sophie Dansigier, la Fondation Groupama, qui existe depuis 18 ans. Et depuis 18 ans, vous accompagnez les associations, vous accompagnez les institutions aussi sur les maladies rares, sur la recherche. Et c'est important de dire que y a des retours derrière, il y a des parents qui vous écrivent, qui vous envoient des petits mots pour dire merci, vous nous avez bien aidés.
Oui, il y a ça, mais moi je voudrais surtout saluer la combativité des parents, l'extraordinaire énergie dont ils font preuve, et leur dire que je n'ai rencontré jusqu'à maintenant que des gens extraordinaires.
C'est joliment dit. Si vous voulez aller voir, faire un petit tour sur le site de la Fondation Groupama, c'est www.fondation-groupama.com et vous aurez aussi toutes les coordonnées des associations que vous soutenez, c'est important. Merci encore d'avoir été avec nous, merci pour tous vos témoignages. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur francebleu.fr et on se retrouve demain pour une spéciale année 70.